Éco, le rendez-vous des entreprises en Occitanie avec Mescar. Mescar, maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Éco, est présent à Toulouse.
Deuxième marché de gros de France après le marché international de Rungis, le grand marché réunit en un seul lieu les acteurs de l'approvisionnement alimentaire et horticole, c'est à Toulouse. Il est particulièrement engagé en faveur de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Nous allons voir dans quelle mesure il est engagé en faveur de l'environnement.
Éco, Isabelle Duché.
Bonjour Maglone Pontier.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale du Grand Marché Mines Toulouse-Occitanie. Nous poursuivons avec vous l'exploration de ce grand marché, de son engagement RSE. Avant d'aborder les questions de l'écologie et de l'environnement, j'aimerais bien qu'on revienne sur cet engagement en faveur de la personne humaine, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez le dispositif qui est mis en place pour soutenir les proches des aidants, qui sont donc les salariés du mine.
Alors, c'est une vraie problématique dont on parle peu. Les salariés, vous, moi, on a des congés et parfois, certains Français utilisent leurs congés à s'occuper de leurs proches. Et surtout, plus on va dans les salaires faibles, plus on retrouve cette problématique parce qu'il n'y a pas forcément de moyens financiers, il n'y a pas de possibilité de maison de retraite hyper qualitative, etc. Donc, je trouve ça terriblement injuste quand on travaille, quand on fait bien son travail, de devoir prendre ses congés pour s'occuper de ses proches. Donc on a travaillé avec ma RH, avec des organismes, notamment un organisme qui s'appelle Clésia, avec nos mutuelles, etc., pour mettre en place un dispositif qui s'appelle le dispositif proche aidant. Donc ça permet à vous, à moi, quand vous avez un frère, une sœur, un parent, même un ami proche, ça fonctionne. C'est à l'entreprise de mettre elle-même dans son dialogue social les règles. On a fait des règles très permissives parce que mes salariés n'en abusent pas du tout, d'ailleurs l'histoire le démontre, et ça vous permet 10 jours par an de pouvoir ne pas aller travailler, ne pas prendre sur vos congés et vous occuper de vos proches. Et pendant ce temps-là, il y a même des dispositifs en plus, c'est-à-dire que vos heures de garde d'enfants, vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas avec vos enfants, hein, des heures de ménage, etc., qui sont prises en charge pour que vous puissiez accompagner vos proches. Et on l'a mis en place il y a 2 ans. Il y a quand même, je pense, 20% de mes salariés qui l'ont déjà utilisé, 20-25%, donc il n'y a pas d'abus. Ça ne change pas la productivité de mon entreprise.
Oui, c'est ce que j'allais vous
demander. Ça ne change pas les résultats, mais ça permet quand même à un salarié de voir un peu le bout du tunnel, de pouvoir respirer quand vous occupez notamment de vos parents, oui, d'un enfant qui est malade, d'un conjoint qui peut traverser une période difficile. Donc il suffit d'un certificat d'hospitalisation, il faut quand même démontrer statut de proche aidant, mais c'est pas compliqué. Et je pense que c'est important de montrer aussi que l'employeur, certes, il embauche, certes, il donne des ordres, certes, il a des demandes, etc., qui sont légitimes, mais c'est aussi un partenaire aidant des difficultés de votre vie.
Oui, et l'employeur, dans ce cas-là, prend soin, finalement, de ses employés.
Exactement. Et je pense que ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est un signe de force de ce que doit être et de ce que peut être un collectif.
Oui. Un mot peut-être sur la place du sport aussi dans cette entreprise, enfin dans ce grand marché international de Toulouse, puisque là aussi, il y a des choses qui sont mises en place pour permettre à tous les salariés du mine d'avoir un équilibre, en fait.
Tout à fait. Je suis persuadée que le sport a une place prépondérante dans nos vies. Le sport et la pratique physique, l'activité physique, pour plusieurs raisons. Une, parce qu'on le voit, le mal manger fait plus de dégâts depuis cette année ou l'année dernière que la sous-nutrition. La malnutrition fait plus de dégâts.
Oui, il y a une augmentation de l'obésité.
Ah, c'est terrible. On est des êtres ultra sédentaires. Beaucoup de gens, vous sortez de chez vous, vous prenez votre voiture, vous allez au boulot, vous garez en bas de votre boulot et basta. Donc vous allez parfois aux toilettes à 50 mètres, chercher de l'eau à 20 mètres, mais c'est tout. Il faut absolument gens fassent du sport. Il faut que les gens fassent du sport pour leur santé mentale. C'est hyper important. Il faut que des gens fassent du sport pour éviter les maladies cardiovasculaires, pour garder la forme, etc. Et l'employeur peut être un partenaire bienveillant, incitatif dans cette pratique-là. Et puis, plus on fait du sport, moins on a de problèmes, plus on baissera un peu le déficit de la sécurité sociale. C'est aussi un enjeu commun que peuvent prendre à bras le corps les entrepreneurs et les employeurs aux côtés des pouvoirs publics. Parce que de toute façon, c'est des impôts, donc c'est toujours ces mêmes entreprises qui vont le financer ensuite. Donc ça sera plus efficace. Donc pour ça, on a fait plusieurs choses. Au MINE, on a installé une salle de sport, des douches, des vestiaires et un parcours de santé pour que 7 jours sur 7, tous nos usagers... Les 1500
quelque
personnes,
soit l'heure, finalement.
Quelle que soit l'heure, vous pouvez pratiquer du sport. Il y a des gens qui travaillent la nuit, la journée, etc. Ensuite, on a permis à nos salariés de se faire prendre en charge. Ça, c'est historique parce que la mutuelle, notre mutuelle en prend un bout. Ça, c'était très compliqué à obtenir, mais on l'a obtenu. Donc, c'est l'employeur pour 75%, 25% de la mutuelle qui prend en charge le sport de mes salariés pendant leur année. Le sport qui n'est pas sur l'entreprise, hein, mais en dehors. Il y a un plafond, évidemment, mais ça va payer un abonnement de piscine, un abonnement à une salle, etc. Et ensuite, ils ont des cours de sport pendant leurs heures de travail.
Et c'est limité quand même à un
quota. Tout à fait.
Un quota,
ils ont, ils ont deux choix entre midi et deux et une heure à 11h. Je crois que c'est le mardi. Comme ça, c'est pendant leurs heures de travail. Donc, ils n'ont pas d'excuses. Ils peuvent venir faire du sport. Et ça a ramené vraiment à la pratique sportive des gens qui n'avaient jamais fait de sport. Donc, j'en suis assez fière. Et puis, c'est aussi un vecteur de cohésion quand même. Faire du sport et transpirer avec quelqu'un, je vous garantis, ça rapproche.
Oui, oui, c'est vrai. Voilà, cohésion. Et puis, effectivement, un mieux-être physique et mental, puisque vous avez parlé aussi de la santé mentale. Vous avez procédé à un audit pour déterminer vos priorités en matière de RSE par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie. Quelles sont ces priorités, Maglone Pontier ?
Alors, sans encore une fois, on a eu des priorités qui ont été guidées par la réglementation. Il y a en France ce qu'on appelle le décret tertiaire. Et ça oblige, d'ici 2040, à baisser drastiquement notre consommation d'énergie. Donc, il faut pour ça mettre en place des investissements les plus rentables environnementalement parlant. Donc, nous, on va par exemple installer tout un parc photovoltaïque en toiture. On a déjà commencé, la métropole l'avait fait avant nous. Ça permet vraiment, vraiment de baisser votre consommation électrique. Après, on va faire ce qu'on appelle du relamping. Donc, on va changer toutes nos ampoules et sur un marché, je vous garantis qu'il y a beaucoup d'ampoules.
Oui, il doit y en avoir beaucoup.
pour mettre des LED, on va végétaliser, on va faire des choses très pratico-pratiques. Par exemple, on nettoie, nous, le marché avec l'eau de pluie. Donc, on récupère les eaux de pluie. On a des bâtiments qui sont conçus pour ça, pour aller nettoyer. On a un plan de transition énergétique de 5 millions d'euros. Qui est déployé depuis cette année. C'est des gros montants, des gros investissements, mais c'est ultra important. Et après, on va travailler pour nos futurs bâtiments, par exemple. Oui. On a donc 16% de bâtiments en plus cette année. Et là, on va faire des bâtiments économes, voire autonomes énergétiquement. Évidemment, quand on peut construire, c'est beaucoup plus facile d'être très énergivore, d'être pas énergivore, pardon, et d'être assez économe. C'est plus facile que sur de l'existant ou pour le coup, vous avez des contraintes techniques qui sont importantes.
Ouais.
Après, on a un énorme travail sur la gestion des déchets.
Ah oui, forcément.
Sur un marché de gros. Vous vous doutez qu'on a beaucoup de déchets. Donc là, j'ai un super responsable qui s'appelle Stéphane, qui va œuvrer à trier, c'est un énorme travail de mes équipes sur place, et revaloriser tous ces déchets pour de la méthanisation, pour de la revalorisation, pardon, etc. Donc là, c'est pareil, un boulot très important, souvent invisible, mais de ce genre de site.
Est-ce qu'il arrive à entraîner les équipes, justement, dans cette gestion des déchets, le tri, la revalorisation ?
Bien sûr. Alors, moi, mes équipes, il y a une dizaine de personnes qui vont trier, récupérer les déchets, etc. Elles sont là depuis longtemps. Elles sont très investies dans leur mission. Franchement, je les remercie parce que c'est pas facile. Hein. Vous bossez dehors par tous les temps, etc. Avec parfois des grossistes, des professionnels qui sont pas toujours aimables. Donc, eux, pas de soucis. Vraiment, ils sont à fond très investis. C'est plus compliqué de la part de mes locataires, donc que ce soit les grossistes, les producteurs ou les acheteurs que sont les commerçants, parce qu'ils sont pressés, etc. Donc, ils ont tendance à mal trier, à jeter. Donc, pour les inciter, là, on n'est pas du tout sympa. On met des amendes, parce que moi, j'ai les pouvoirs de police sur le site.
Oui.
J'ai des agents de sécurité. Et du coup, là, on met des amendes quand ils trient mal, etc. Et ça coûte assez cher, donc on les incite
donc
fortement
là,
à bien
forcément.
Trier, et ça fonctionne.
Oui, il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, c'est le carotte et le bâton.
Exactement.
Ça marche. Y a aussi un développement de la politique dans les transports, avec notamment des transports doux, puisque voilà, vous avez beaucoup de machines, vous avez parlé de Fenwick aussi. Comment
Alors,
vous faites pour
on
ça?
On a une politique de mutation vers les transports doux très diverse. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, pour mes salariés, des vélos de fonction, ce qui fonctionne. Hein, ça a permis d'éliminer quelques véhicules.
Donc pour les trajets jusqu'au domicile.
Jusqu'au domicile,
voilà.
Tout ouais. à fait. Donc, ils ont du coup en plus des super vélos en leasing. Ça, c'est quand même assez sympa pour le salarié. On a ensuite mis, évidemment, des racks à vélo. On a travaillé avec Toulouse Métropole pour positionner des stations de vélos publics hein, de Toulouse Métropole. Ensuite, on a des locataires qui ont énormément investi dans ces sujets-là. On a des locataires comme Martin Breuer, qui est l'approvisionneur de McDo. L'ancienne un peu plus connue, Martin Breuer, c'est pour les pros, McDo, c'est pour le grand public, et qui roule à l'huile de friture. Donc vraiment, il récupère l'huile de friture chez nous, etc., et qui roule complètement à l'huile de friture. On a des véhicules qui vont travailler l'hydrogène, l'électrique, etc. Sur, nous, on a beaucoup de véhicules froids, et le froid, techniquement encore, on n'est pas presque un camion frigo. Ça, c'est très, très, très énergivore. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément des solutions. On a mis en place un parquet électrique, hein, nous, pour nos véhicules. Moi, par exemple, je roule à l'électrique. Donc, on va essayer d'aller dans toutes ces directions, la mobilité de nos personnels, la mobilité douce de nos opérateurs. Et on travaille évidemment à concentrer tous ces flux sur un même site, parce que quand vous concentrez sur un même flux et qu'il y a des véhicules qui prennent les tournées de 2, 3, 4, 10 entreprises pour aller vers le centre-ville, au lieu d'avoir 10 véhicules, vous n'en avez qu'un. Donc, ouais. Ça, c'est aussi un énorme défi.
Un travail de mutualisation.
L'organisation logistique, d'où l'intérêt d'un marché d'intérêt national, c'est que vous concentrez les flux au lieu de les disperser avec des camions à moitié vides.
Oui, bien sûr. Un dernier mot, peut-être sur la recherche, enfin le soutien que le MINE fait à la recherche apicole.
Ah oui, alors ça c'est un partenariat qu'on a depuis longtemps avec des apiculteurs de la Haute-Garonne. Vous savez que les abeilles ont du mal parfois à résister en ville. Un, parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs. Deux, parce qu'elles ont un terrible ennemi qui est le frelon asiatique, maintenant que tout le monde connaît. Donc on a fait un partenariat avec les apiculteurs où on a mis des ruches sur le marché. Mais en plus de mettre des ruches où on récupère quand même du miel et on en est ravis, c'est nos goodies, nous on fait que des goodies qui se mangent, on ne veut pas offrir des stylos, enfin, du thé qui est fait sur le marché, du miel, etc. Ils vont avoir des capteurs pour mesurer l'activité des abeilles en ville. Comment elles se défendent, comment elles évoluent, comment elles font pour survivre, etc. Malgré ça, c'est très compliqué parce que nous, on a énormément de frelons. Donc, nos abeilles luttent difficilement pour survivre.
Donc là, il faudra trouver une solution pour éloigner les frelons.
Exactement. Là, avis à toutes les startups qui voilà. tuent les frelons.
Merci beaucoup, Maglone Pontier. Merci pour cette présentation du grand marché d'intérêt national de Toulouse-Occitanie. Je rappelle que vous en êtes la directrice générale.
Merci beaucoup.
C'était Echo, le rendez-vous des entreprises en Occitanie, en partenariat avec Mescar. Mescar, la maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Echo, est présent à Toulouse.